Bonjour et bienvenue sur l'antenne. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat, on l'entame juste après le flash d'Arthur Meurieux aujourd'hui. Bonjour Arthur.
La cour d'appel de Toulouse a rendu sa décision. L'imam de la grande mosquée d'Ampalo est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Sur une vidéo d'un de ses prêches datant de 2017, il faisait référence en arabe à une parole du prophète Mahomet qui appelait les musulmans à tuer les juifs. Il a tenté de se défendre en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été altérée. Une étude révèle que le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne lors de la pandémie de Covid-19. La mortalité liée à ce phénomène aurait été multipliée par 9. La détresse psychosociale liée au Covid-19 expliquerait en partie ces chiffres. Le syndrome du bébé secoué est la forme la plus grave de maltraitance et de négligence envers les enfants. La rentrée politique se poursuit. Tous les ministres sont réunis aujourd'hui par Emmanuel Macron pour un séminaire gouvernemental à l'Élysée. L'objectif, caler la stratégie des prochains mois. Plusieurs chantiers seront sur la table, notamment le pouvoir d'achat et l'inflation, dont les chiffres viennent de tomber. Explication d'Éric de Rydmaten.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Effectivement, c'est la France qui enregistre le taux le plus faible pour l'inflation à fin août. Donc là, c'est sur les 12 derniers mois à fin août. Donc on est à 5,8%. Alors bien sûr, même si la hausse des prix se ressent dans les magasins, on le voit bien avec le prix de l'alimentaire, eh bien c'est quand même une inflation contenue parce que en zone euro, vous le voyez, c'est 9,1% de progression avec des records dans les pays baltes, en Estonie, Lituanie, la Lettonie. On est entre 20 et 25% d'inflation là où en France, rappelons-le, à fin août sur 12 mois, nous sommes à 5,8. Pourquoi la France est si bas? Si l'on peut dire, eh bien c'est grâce au bouclier tarifaire. Vous savez que l'électricité a été contenue à 4% de hausse, alors que si rien n'avait été fait, ce serait plus 70%, disait hier Bruno Le Maire. Ça coûte cher, hein, 15 milliards d'euros aux caisses de l'État pour l'instant, depuis le début de la crise. Et puis, sachez que maintenant le gros problème se présente parce que les lendemains s'annoncent difficiles. On a appris par la Bundesbank, la banque centrale allemande, qu'il fallait maintenant monter les taux. Pourquoi monter les taux? Parce que lorsque les taux montent, la croissance ralentit, la consommation ralentit et donc on bloque finalement l'inflation. Ce qui veut dire que la réunion pour cette hausse des taux importante, a dit la Bundesbank, sera prise, cette décision, le 8 septembre. Il y a donc des moments difficiles concernant justement cette croissance qui pourrait être bloquée en France, peut-être, et en Europe à partir de la prochaine réunion de la Bundesbank.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
De retour pour le début du débat 90 minutes info. Et sur ce plateau, j'accueille aujourd'hui Judith Ventrop. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes grand reporter pour le Figaro Magazine. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format, hein, finalement, pour moi. Benjamin Cauchier est là également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Louis Marguerite, bienvenue. Bonjour. Député Renaissance de Saône-et-Loire. Et puis Gauthier Lebray. Et là également, comme hier d'ailleurs, pour nous épauler dans l'analyse de tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par parler de la crise énergétique. L'hiver risque d'être long, onéreux également, avec en plus, on l'a appris hier, de nouvelles réductions d'approvisionnement en gaz de la part de la Russie. Et puis on va aussi faire le point aujourd'hui sur les tarifs réels de gaz, d'électricité, tenter de démêler aussi le vrai du faux sur les factures qui vont vraiment venir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'attelle à la gestion de cette crise sans précédent par le gouvernement. Regardons par exemple ce que nous dit Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui dit: comme nous l'avions anticipé, la Russie utilise le gaz comme une arme de guerre et prend prétexte de l'application des contrats par Engie pour réduire encore davantage les approvisionnements, qui en outre avaient déjà drastiquement baissé. Puis elle va un petit peu plus loin. Regardons la suite des cartons qu'on vous a préparés. La France, dit-elle, s'est préparée à ce scénario depuis le printemps. Le remplissage des stocks de gaz atteindra son maximum dans environ 2 semaines et nous avons diversifié nos importations. Alors où en est-on réellement du stockage? Tout est prêt pour voir venir, on vous dit. Regardez ce reportage.
L'essentiel est invisible. Et pourtant, en dessous de ce site aménagé à Saint-Hilier-la-Ville dans les Yvelines, à environ 400 mètres de profondeur, se cache une énorme bulle de gaz dans une couche imperméable, imbibée d'eau. Le but, conserver du gaz naturel pour aider l'Île-de-France et la Normandie à passer un hiver plus serein.
En sous-sol, le gaz est stocké dans la roche poreuse qui représente 1,5 milliard de mètres cubes de gaz. est l'équivalent de 600 000 piscines olympiques.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour récupérer le gaz. Il arrive par des tuyaux pour être envoyé vers des puits et injecté sous terre avec l'aide d'un compresseur. L'objectif, remplir presque 100% de la cuve de gaz pour novembre.
Là, vous avez cette base de données européenne où on voit qu'en France, nous sommes à 91,5%, alors que nous avons une moyenne européenne aux alentours de 80%, et on voit que la France est un des premiers pays en termes de taux de remplissage.
Ces provisions sont conservées pour le compte des fournisseurs de gaz. Avec la nouvelle réduction des livraisons du géant russe Gazprom, les autorités ont souligné l'utilité particulière cette année de remplir les réserves au maximum.
Judith Weintraub, vous êtes rassurée quand vous voyez ça? Vous vous dites vraiment là, ou bien c'est un peu la méthode Coué, c'est-à-dire on essaie d'être optimiste au maximum, quitte à revoir un petit peu ses ambitions dans quelques semaines?
Alors apparemment, les cuves seront pleines à 100%, pleines donc, au 1er novembre, tant mieux. Moi, j'ai l'impression que dans l'urgence, le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour pallier les erreurs d'une politique énergétique totalement erratique. On le dit souvent, mais les choix antinucléaires opérés par électoralisme et par volonté de s'allier les bonnes grâces des Verts par François Hollande et ensuite choix confirmés par Emmanuel Macron, nous met dans une situation qu'on n'aurait pas connue si on avait continué à développer notre industrie nucléaire, domaine dans lequel on était les premiers dans les années 70-80.
On paie aujourd'hui des choix politiques soit à côté de la plaque, soit hasardeux, soit aussi, c'est ce que disaient des membres du gouvernement, sous la pression d'opinion à l'époque. Emmanuel Macron, il n'a fait que répondre finalement à une demande ambiante. C'est un petit peu comme ça qu'on essaie de se dédouaner sur les choix qui ont été opérés il y a déjà 5-6 ans.
Si Emmanuel Macron, lors du quinquennat précédent, opérait sous l'influence de l'opinion ambiante, je pense que le bien-être social des Français serait également meilleur s'il avait été à l'écoute de l'opinion ambiante durant le dernier quinquennat. C'est clairement la stratégie du « en même temps », mais là, ça me gêne beaucoup. Alors, satisfait, évidemment, dans l'intérêt des entrepreneurs français, des particuliers, que nos réserves stratégiques de gaz soient opérationnelles pour affronter l'hiver, je l'espère. Et du coup, quid de ce plan de sobriété? Devons-nous quand même faire des économies si tout va bien et que tout est plein? Donc là, injonction contradictoire de la part des messages gouvernementaux. Et puis quand même, moi j'ai du mal à me dire, les Français vont faire confiance à un président de la République et à un gouvernement qui, qu'on le veuille ou non, a acté la fermeture, a fait un choix stratégique lors du quinquennat précédent de fermer les réacteurs nucléaires, de dénucléariser la France pour aller mettre notamment des éoliennes partout sur le territoire, notamment des éoliennes offshore. Il y a 70 éoliennes en béton armé qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui vont être installées à quelques kilomètres de nos côtes françaises. Voilà quel a été le choix stratégique d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, entendre ces bonnes nouvelles, ça nous fait plaisir, effectivement, mais nous sommes en train de faire confiance à nos bourreaux.
Louis-Marguerite, du côté de l'exécutif, on nous dit au fond, Emmanuel Macron, il a fait que s'engouffrer dans la brèche qui avait été entamée avant lui, finalement. Bon, après, dire toujours c'est la faute de ceux qui venaient avant, c'est peut-être un peu court comme argument. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de
méacoupe? Pardonnez-moi, mais quand ça fait 10 ans que ce sont les mêmes, c'est pas rebalancer la balle à ceux qui étaient là avant.
Oui, ils sont lui,
là,
il était dans le gouvernement précédent.
Ça fait pas 10 ans que c'est les mêmes, mais on pourra en reparler, je pense que c'est un autre sujet.
Est-ce que c'est pas un peu.
Ça fait pas 10 ans que c'est les mêmes, mais peu importe.
Un peu court comme justification, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire bah, oui, finalement, aujourd'hui, on veut faire amende honorable, on n'a peut-être pas senti le vent tourner?
Peut-être pour un peu nuancer ce qui a été dit juste avant. D'abord, l'énergie nucléaire, c'est quelque chose qui a été très, très fortement annoncé par le président, puisqu'il a annoncé un programme à Belfort, c'était au mois de février, on s'en souvient, de construction de 6 réacteurs nucléaires. Ça prend du temps, parce que l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est extrêmement propre, extrêmement bon pour l'environnement, mais c'est une énergie qui doit être maîtrisée. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a certains réacteurs qui sont à l'arrêt, parce qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui a dit.
Centrales qui sont en maintenance et on nous dit on manque de bras pour les réparer. C'est compliqué.
À la limite, on peut aussi voir le problème d'une autre façon. C'est-à-dire dire il y a une autorité de sûreté nucléaire qui a dit qu'il y avait effectivement des fissures qui avaient été un peu plus importantes que l'usure normale. Donc voilà, c'est pas une question de gouvernement, ni de gauche ni de droite. Hein. C'est une question aussi physique, chimique, nucléaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on n'est pas forcément que dans l'urgence. La problématique de l'énergie, c'est que elle est liée au fait qu'on ne sait pas combien on va consommer cet hiver. Elle dépend beaucoup de la température extérieure, on le sait. Donc on a des prévisions qui montrent que, bah, effectivement, on fait le maximum possible. Mais si l'hiver est plus froid que escompté, que ce soit pour les ménages, pour les entreprises, là, effectivement, il peut y avoir une surconsommation. Donc le sujet, l'abondance, juste d'un mot, parce que c'est le mot qui a fait beaucoup de polémique, c'est pas pour se faire peur et c'est pas pour dire il y a plus rien, on sait plus rien faire. C'est juste pour se dire que l'énergie, à très bas coût, puisque je rappelle que la France est le pays, notamment grâce au nucléaire, où le coût de l'électricité, et ça date d'avant la crise, est le plus bas d'Europe. C'est peut-être moins vrai qu'avant, et ce sera moins vrai qu'avant. Donc c'est aussi
quand même,
première...
pardonnez-moi, mais c'est quand même mettre les miettes sous le paillasson assez rapidement, puisque la responsabilité à la fois de Mme Borne et de M. Macron sont clairement exposées. Ils l'ont assumé auprès des parlementaires lors de la précédente mandature. Emmanuel Macron s'est exprimé fortement sur le sujet. Donc, est-ce qu'on peut donner une crédibilité au discours et aux messages et aux choix politiques et stratégiques liés à l'énergie de ce gouvernement, sachant que ce sont les mêmes aux commandes, que vous le vouliez ou non, Emmanuel Macron et Mme Borne?
Allez, répondez-lui rapidement. Non,
vous comprenez la défiance des Français?
La défiance des Français, ça aurait été si on n'avait rien fait et si le gouvernement... D'ailleurs, les sujets énergétiques, j'imagine qu'on va reparler du prix pour les particuliers, etc., dans un instant, mais c'est si on n'avait rien fait. On avait déjà commencé en présentant le gouvernement, en présentant de fonction. Moi, j'étais conseiller du gouvernement et effectivement, on en parlait déjà. Moi, je pense que le sujet du nucléaire... Fessenheim, vous dites, c'est les mêmes. Ça avait été décidé sous François Hollande. Donc, effectivement, il y a eu... cette décision a été retirée.
Il était ministre de l'économie, François Hollande.
Décision a été prise sous François Hollande et c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, c'était même un objet de la campagne entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bref, en tout cas, il y a eu cette annonce qui va prendre un peu de temps. Le sujet, il doit être quel est le meilleur mix énergétique, tout en prenant en compte une décroissance.
Oui, mais Benjamin Cauchy, vous pouvez pas non plus prendre le temps de parler.
J'entends, mais pardonnez-moi,
moi je suis là aussi pour faire le médiateur.
C'est insupportable d'entendre. Mais c'était pas lui qui décide.
Ça arrive qu'on n'entende pas ce qui nous plaît.
Quand on est président de la République, on a la capacité de dire stop. Il l'a pas fait.
Il a annoncé ce programme nucléaire.
Sur les choix politiques qui ont été faits en matière de nucléaire. Et après, on avancera sur le reste.
Emmanuel Macron, il avait dit qu'il allait fermer 14 réacteurs nucléaires. On en a donc fermé 2 avec Fessenheim. Et vous dites, on va ouvrir des nouvelles centrales, les mini-centrales, les fameuses promesses d'Emmanuel Macron qui veut maintenant ouvrir des mini-centrales. Mais on a entendu au MEDEF, le président d'EDF, dire, on a embauché des gens pour fermer des réacteurs. Parce qu'on nous avait dit, vous allez fermer 14 réacteurs.
Absolument.
Et là, on nous dit, on va ouvrir des nouvelles centrales. Résultat, qu'est-ce qui manque? Eh bien, la main-d'œuvre, les ingénieurs compétents pour ouvrir des nouvelles centrales et
Absolument.
Non pas pour
et
les fermer.
Aussi.
Donc là, effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre à cause des choix
politiques. Le discours du PDG d'EDF était d'ailleurs complètement accablant pour ce gouvernement.
Pour Agnès Pannier-Runacher qui était juste à côté.
Et ceux qui l'ont précédé. Est-ce que ça ne serait pas quand même plus convaincant si Emmanuel Macron, au lieu de nous dire ce qu'il a affirmé, je n'ai jamais changé sur le nucléaire, avait dit à Belfort, qui vous avez raison, et son grand discours, j'ai changé d'avis?
Je sais pas, faut peut-être lui poser la question. Mais enfin, j'ai l'impression que je suis seul à défendre le gouvernement sur ce plateau, donc je vais un peu m'y employer. Qu'est-ce qu'on aurait dit si dès maintenant on n'avait pas dit. D'ailleurs, vous savez que dans le paquet pouvoir d'achat qu'on a voté cet été au mois de juillet, on a prévu un certain nombre de dispositifs qui viennent prévoir le restockage, y compris et je dis pas que c'est heureux la réouverture de Saint-Avold, ça nous a valu des tonnes de critiques. Non pas que ça nous fasse plaisir, mais on anticipe effectivement potentiellement une baisse entre la capacité à prendre de l'énergie à l'extérieur et notre consommation. Donc voilà, donc on essaie dans la prévisibilité, c'est pas parfait, y compris pour les conditions externes que j'indiquais, mais je pense que le gouvernement est dans son rôle, la majorité aussi.
Allez, on avance un petit peu, je vais vous passer une séquence de Bruno Le Maire au mois de mars. Et on va parler là des choix politiques en matière de sanctions. Écoutons ce que nous disait alors celui qui était déjà ministre de l'économie.
Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Faire plier l'économie russe, le problème, on le voit bien avec les réseaux et les médias, c'est que tout reste... Mais en fait, les Russes, ils s'en sortent très très bien financièrement en ce moment.
Oui, c'était l'un des éditos qu'on a pu entendre sur RTL ce matin. Ils sont littéralement noyés sous le cash. Ils ont mis 97 milliards d'euros depuis la guerre en Ukraine grâce à leurs différentes ventes énergétiques. C'est une hausse de 40%. Depuis la guerre en Ukraine, puisque les sanctions, et c'est grâce aux sanctions cette hausse, les sanctions ont fait monter les prix. Donc effectivement, les Russes sont littéralement noyés sous le cash. Leur économie est très loin d'être genou à terre, comme le disait Bruno Le Maire il y a quelques mois.
On a quand même de bons économistes en France. Ils n'ont pas prévu ce scénario-là. Il y a des conseillers à Bercy qui n'ont pas anticipé ça.
Et puis accessoirement, on a un Parlement qui peut aussi débattre de choix aussi cruciaux que ceux qui concernent notre énergie. Non, mais quand Bruno Le Maire dit ça, rappelez-vous, Emmanuel Macron le corrige. Il dit non, on n'est pas en guerre. Pourquoi ? Parce qu'en guerre, le Parlement a des prérogatives. Alors, évidemment, le président de la République est tout puissant, mais ensuite, les décisions qu'il prend doivent être approuvées par le Parlement. Là, on zappe le Parlement pour un débat énergétique. On zappe le Conseil des ministres, dont je rappelle que les délibérations sont publiques. Il y a une communication après. On a le droit d'interroger les ministres qui participent pour savoir ce qui s'y est dit. Et on fait un Conseil de défense qui est la formule la plus opaque, que les Français connaissent bien puisqu'on nous a fait le coup pendant le Covid, pour un débat qui les concerne absolument tous et où les données sont sur la table.
Mais là, il y a un nouveau un séminaire et un conseil de défense sur la crise énergétique. D'ailleurs, Marine Le Pen s'en est offusquée.
C'est ce dont je vous parle. On fait un conseil de défense au lieu de passer en conseil des ministres.
Oui, elle demande un débat au Parlement avant la rentrée d'octobre. Mais bon, évidemment, sa requête a très peu de chances d'aboutir puisque ce sera un choix de l'Élysée. Mais effectivement, elle a fait une lettre aujourd'hui même adressée à la Première ministre où elle demande effectivement un débat au Parlement puisqu'elle a
en toute transparence.
Le premier groupe d'opposition, et effectivement où elle critique ce Conseil de défense qui est calé un peu ce qu'on a connu effectivement au moment du Covid, qui ressemble au Conseil de défense.
Alors, parlons de la gestion justement, il y a beaucoup de similitudes quand même avec la manière dont on a géré la crise Covid. On a l'impression qu'on tâtonne un peu, ça va bien se passer, mais finalement on revoit la copie. Est-ce qu'on peut dresser des parallèles avec ce qui s'est passé il y a 2 ans?
Alors, effectivement, il y a des problèmes de cohérence et parfois, un ministre va contredire un autre. Par exemple, j'ai écouté ce matin la présidente de la commission de régulation de l'énergie, qui est donc Emmanuelle Wargon. Vous savez, elle a perdu aux législatives, donc elle est sortie du gouvernement. Elle a été recasée par Emmanuel Macron à la présidence de cette commission. Et ce matin, elle disait, oui, bah, effectivement, Gazprom va nous couper, les Russes vont nous couper le gaz, Gazprom va nous couper le gaz. Alors, Gazprom accuse la France de ne pas payer la note, donc c'est pour ça qu'il nous coupera le gaz. Et en fait, bah, c'est pas très grave, puisque ça représente très peu de notre mix énergétique, ouais, et on s'en tirera très bien. Sauf que devant le MEDEF, Elisabeth Borne disait, si Gazprom nous coupe tout le gaz, il y aura forcément des restrictions. Alors hier, on a appris de la bouche de la Première ministre que les restrictions toucheraient les entreprises et non pas les ménages. Mais c'est quand même curieux d'entendre Emmanuel Wargon nous dire les Russes nous coupent le gaz. C'est pas grave. Et pendant plusieurs jours, la Première ministre, le Président de la République, en disant c'est la fin de l'abondance, etc., nous font croire le contraire. Donc effectivement, les Français ont du mal à comprendre. Marguerite,
non, mais sans vouloir prendre systématiquement la défense de votre formation politique, enfin de la majorité, ça vous énerve quand même qu'il y ait tous ces atermoiements? Enfin, ça entrave aussi un peu votre travail, vous, Laval.
Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on caricature un peu le fait qu'on escamote le débat parlementaire. Parce que, ce que dit Marine Le Pen dans son courrier, c'est un peu la caricature de la mauvaise foi. Ce débat, d'abord, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu lorsqu'on a discuté du paquet pouvoir d'achat. Donc, on a déjà eu l'occasion de ce débat. Effectivement, ça a montré les divergences. Il n'y a pas de doute, y compris sous la rouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold en anticipation des besoins. Point numéro 1. Point numéro 2, il y a un projet de loi justement sur l'énergie qui arrive avec des cycles d'audition en commission des affaires économiques où il y a toutes les composantes du représenté au Parlement. Ce projet de loi, il est vraiment sur la table et à mon avis, il va être débattu. Je pense qu'on va avoir des débats pas simples, hein, mais c'est normal qu'on l'ait. Et puis par ailleurs, autre point sur le Conseil de défense, je sais pas qu'on fantasme, je trouve que j'en ai préparé dans les précédentes fonctions. C'est vrai que c'est une formation qui est peut-être un peu différente de celle que faisait le ministre, mais c'est on met autour de la table des ministres qui sont en charge
du Conseil de défense. Et qui n'ont pas le droit de parler.
Il n'y a pas de décisions qui sont prises à l'occasion de ces conseils de défense.
C'est des point d'étape, peu importe, il y a aussi, c'est normal que le président de la République réunisse les ministres qui sont en charge d'un certain nombre de sujets, celui de la défense, celui de l'économie, peu importe, de la santé, tout ce qu'on imagine. Bon, je pense qu'il
faut
pas
très bien faire ça en Conseil des ministres en choisissant les ministres invités.
Il le fait aussi, mais
quel est l'intérêt du Conseil de défense?
Mais peut-être de mettre une thématique particulière et peut-être voilà, c'est
donc ça ne faut pas le faire en Conseil des ministres.
Et en tout cas, sur le sanitaire, il y en avait beaucoup puisque c'était le mercredi en général.
Est-ce que c'est grave si les Russes coupent tout le gaz? Parce qu'on entend différents sons de cloche de la part de l'exécutif. Est-ce que ça aura un impact sur le quotidien des Français, par exemple?
En tout cas, on met toutes les dispositions en place pour que c'est le moins d'impact possible, qu'il y ait zéro impact. Encore une fois, c'est difficile d'avoir une prévision absolument exacte de ce qui va se passer au mois de décembre. Je le redis. Mais en revanche, on va faire toutes les dispositions possibles. Ce qui est vrai, c'est que par rapport à tous les pays européens, et ça, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, tous les pays européens, on est celui qui est le moins dépendant à l'énergie russe. Donc, on aura un impact moindre qu'ailleurs.
Benjamin Cauchy, vous voulez réagir sur le fait qu'on outrepasse un peu le rôle du Parlement?
Absolument. Sur la session parlementaire, effectivement, on a tous découvert
le courrier de Marine Le Pen. Plusieurs personnes le réclamaient depuis déjà la mi-août, puisque j'entends effectivement que durant le pacte pouvoir d'achat dont vous parlez fin juin qui a été voté, il y a eu des efforts qui ont été faits sur l'énergie. Ok, le prix de l'électricité a doublé durant l'été. Donc on peut se dire et se féliciter que fin juin, on a acté des choses dans l'intérêt des Français parce que ça va être compliqué de payer les factures énergétiques, sauf que ça a doublé. De la même manière pour la guerre en Ukraine, les éléments ont évolué durant l'été. Il y a une escalade diplomatique, une escalade à l'achat d'armement. Est-ce que les Français, par le biais de leurs représentants, de leurs députés, n'ont pas le droit de s'exprimer ou d'obtenir leur avis plutôt que d'attendre des minutes indiscrètes au pacifié d'un conseil de défense? Le principe de la démocratie, c'est pas de donner accès à tout le monde, mais de faire en sorte que la population participe à cet effort de guerre dont vous nous parlez, vous majorité. Guerre économique, guerre géopolitique à l'entrée de l'Europe, guerre énergétique, bref, les Français ont besoin d'être associés. Alors, c'est ce qui a manqué lors du premier quinquennat et j'ai craint qu'Emmanuel Macron ne retombe dans ce travers du grand débat qui noie la démocratie.
C'est pas un duel, hein. À chaque fois vous l'interpellez, mais c'est un débat.
À ceci près que la situation politique nous appelle à encore plus sans doute de débats parlementaires.
Allez, les tarifs. On va s'intéresser aux tarifs. On ne paiera pas 40 à 50% plus cher, assure l'exécutif. On ne laissera pas faire. Alors cette histoire quand même de 1000 euros le mégawattheure, on a beaucoup fantasmé cette somme qui nous paraît évidemment à tous exorbitante. Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce qu'il faut mettre un petit peu de, comment dire, un bémol là-dessus? C'est évolutif visiblement et ça n'intervient qu'en bout de chaîne. C'est-à-dire que quand on a épuisé tous les autres cours en matière d'énergie, c'est ce que nous explique Lomic Guillot du service économique.
Et en France, le prix de l'électricité est fixé par différents calculs plutôt savants, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité et que tous ne coûtent pas la même chose. Par exemple, l'électricité produite par le vent ou le soleil est assez peu chère, d'autant que le prix du vent et du soleil ne change pas avec la guerre, alors que l'énergie produite par les centrales à gaz est littéralement en train d'exploser, du moins son coût, depuis le début de la crise ukrainienne. Alors évidemment, quand on regarde, comme là en ce moment, on les voit, les coûts de production de l'énergie en France, sachant en plus qu'ici, notre électricité provient à 70% du nucléaire quand tous les réacteurs fonctionnent, eh ben on comprend pas bien pourquoi en début de semaine on nous a annoncé des prix de gros qui dépassent les 1000 euros à terme. Certains ont même commencé à paniquer, à se dire que leur facture allait suivre cette flambée, être multipliée par 40 ou 50. Alors qu'on se rassure, ça ne sera pas le cas. D'abord parce que les prix qu'on annonce correspondent non pas au prix moyen de l'électricité, mais au coût de production de la dernière centrale appelée sur le réseau pour fournir la demande en électricité. En clair, quand on a besoin de peu d'électricité, on utilise en priorité les modes de production les moins chers. Mais plus la demande augmente, notamment les jours où il va faire extrêmement froid, eh bien plus il faut utiliser toutes les ressources possibles et donc acheter de l'électricité qui provient des modes de production les plus onéreux. Or, en période de pic de consommation, les dernières centrales appelées pour fournir de l'électricité et donc compenser ce pic sont celles qui fonctionnent au gaz, d'où les prix actuels. On va forcément en payer les conséquences à un moment, mais la facture ne va pas augmenter de 1000% comme le prix de gros cette semaine. Le régulateur français, qui procède à ses calculs savants sur le prix, a estimé qu'il faudrait augmenter de 44% les factures, ce qui est déjà énorme, mais loin de l'évolution du prix de gros. Pour l'instant, le gouvernement, lui, a choisi de plafonner la hausse à 4%, le fameux bouclier, mais ça ne durera pas éternellement. Certains, en Europe ou en France et au gouvernement, militent donc pour revoir totalement les de calcul du prix de l'électricité et le décorrélé du prix du gaz. Mais si on ne paye plus au prix fort la fameuse dernière centrale appelée, eh bien celle-ci ne sera pas mise en service lors des pics de consommation, parce que sinon elle tournerait tout simplement à perte, et si elle n'est pas mise en service, c'est là qu'il y a un risque de pénurie en plein hiver. C'est ça que tout le monde veut à tout prix éviter, en demandant aux particuliers et aux entreprises de limiter leur consommation au maximum. Et pour limiter la consommation, bien, il n'y a pas 15 secrets, 15 recettes. Il y en a une qui marche très bien, c'est de laisser entendre que les prix vont devenir énormes. Naturellement, on fait attention et ainsi on évite de se ruiner et on évite surtout de ruiner le système.
Oui, bon, il l'a bien résumé à la fin, hein. J'ai dit 23, c'est agiter un peu le chiffon rouge et puis finalement, on espère que tout le monde va se responsabiliser. Oui. Mais quand même, ça permet de mettre un petit peu de mesure par rapport au scénario noir qu'on nous a prédit pour les prochains mois.
Mais là, la question intéressante soulevée, c'est celle de la corrélation entre prix du gaz et prix de l'électricité. Moi, je me souviens que Bruno Le Maire, il y a quelques mois, quand déjà des voix s'élevaient pour dire c'est pas bien malin de s'être laissé embarquer dans un système visant à promouvoir les renouvelables qui, du coup, pénalisait les producteurs d'électricité nucléaire que nous sommes et en quelque sorte arrangeait les producteurs de gaz que sont les Allemands. Il était quasiment interdit d'en parler. Et là, Bruno Le Maire lui-même nous annonce qu'il va mener cette demande de réforme qui est partagée par plusieurs pays. On va peut-être avancer, c'est absolument crucial.
Effectivement, la hausse des prix, ça peut, Benjamin Cauchy en sait quelque chose, créer de gros mouvements sociaux. C'est d'ailleurs ce qui se passe outre-Manche au Royaume-Uni où la facture a augmenté de 80% en l'espace de quelques mois. Alors on n'en est pas du tout là en France. Il y a effectivement le bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire, il est amené normalement à s'arrêter. Alors il y aura peut-être un débat au Parlement pour le prolonger. Ouais. Il y a les chèques énergie, mais il y a aussi les effets de seuil. C'est-à-dire que les chèques énergie, forcément, ça va s'arrêter. À un moment, tous les Français n'auront pas un chèque énergie pour aller payer leur électricité, leur énergie. Donc ça sera intéressant de voir quels Français ne seront pas concernés par ce chèque énergie. Et ces Français pas concernés auront peut-être du mal à payer leur électricité, leur énergie s'il n'y a plus le bouclier tarifaire. Ça peut créer de la colère, ça peut créer des tensions, ça peut créer des mouvements sociaux type gilets jaunes x10. C'est tout l'enjeu pour le gouvernement qui veut aussi en finir avec un quoi qu'il en coûte. Il ne veut pas d'un quoi qu'il en coûte énergétique, le gouvernement. Donc il est prêt entre deux feux. D'un côté, limiter les dépenses publiques incontrôlées et de l'autre, éviter la grogne.
Allez, on s'interrompt pour cette première partie. Petite pause et puis on revient pour parler notamment de la traque toujours de l'imam Eki Houssen qui a disparu dans la nature alors que vous le savez, il est désormais expulsable après décision du Conseil d'État. Que va-t-il se passer? Où est-il? On attend a priori d'ici quelques minutes une communication du préfet du Nord à ce sujet. À tout à l'heure. Il est 16h sur l'antenne de CNews, dans un instant reprise du débat. Avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité, à commencer par l'arrivée des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site de Zaporijjia en Ukraine, alors qu'il se trouvait à près de 50 km de la centrale. Vous voyez ces images en approche des experts de l'AIEA. Le directeur de cette délégation a alors assuré qu'il voulait éviter un accident nucléaire pour le bon déroulement de cette mission. L'Ukraine a aussi la Russie a arrêté de bombarder la route d'accès à ce site. On en vient à ce qui s'est passé à Choisy-le-Roi dimanche soir. On vous en a beaucoup parlé sur l'antenne. Parmi les trois individus qui avaient agressé ce couple de retraités, l'un d'entre eux comparé aujourd'hui en comparution immédiate. Il est accusé de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours. Bonjour Régine Delfour. Que savons-nous au juste du profil de cet individu?
Eh bien, Nelly, on sait qu'il a 29 ans, qu'il est algérien, qu'il est né en Algérie, qu'il est venu en France de manière clandestine. Il n'a jamais régularisé sa situation. Il est connu des services de police, notamment pour de nombreux cambriolages, pour des vols à l'étalage, mais aussi pour des faits de violence sur la personne sur les personnes dépositaires de l'autorité publique, mais aussi pour outrage. En 2020, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il se soustrait. En 2022, il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Puis le 25 juin dernier, il fait à nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire français après un vol à l'étalage dans l'Essonne à Massy. Alors je vous rappelle que dimanche, un couple de personnes, un homme de 84 ans et sa femme de 79 ans se promènent sur les bords de Seine à Choisy-le-Roi. Ils sont agressés par trois individus qui tentent de leur dérober des clés. L'homme se défend, il est roué de coups, sa femme aussi. Sa femme donc essaye de tenter de sauver son mari. Elle sort un petit opinel. Les deux assaillants s'en vont. L'un est blessé. Des témoins donc appellent les secours et le suspect est interpellé. Il va donc passer aujourd'hui en comparution immédiate dans quelques minutes, quelques heures. Il encourt 10 ans de prison.
Gine, on compte sur vous, bien sûr, pour nous donner la décision du tribunal judiciaire de Créteil. On en vient à la cour d'appel de Toulouse, qui, elle, a rendu sa décision concernant l'imam de la grande mosquée d'Ampalo. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Sur la vidéo d'un de ses prêches datant de 2017, il faisait référence à une parole du prophète qui appelait les musulmans à tuer les juifs. Et il avait tenté de se défendre, lui, en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été altérée. Il se pourvoit visiblement en cassation désormais. Les membres du gouvernement réunis pour un grand séminaire de rentrée. L'objectif étant de préparer une rentrée qui s'annonce chargée. On l'a évoqué tout à l'heure sur ce plateau. Emmanuel Macron et ses ministres qui sont toujours réunis depuis 10 heures ce matin. Et on retrouvera dans nos prochaines éditions Élodie Huchard pour le compte-rendu de cette journée de rentrée. Et puis le 31 août 1997, vous avez tous retenu cette date. Forcément, vous vous souvenez sans doute de ce que vous faisiez d'ailleurs ce jour-là. Il y a 25 ans, Diana périssait dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Elle avait alors 36 ans. Vous allez voir que son image reste intacte hein, auprès du public. Et il y a toujours ces touristes qui viennent se recueillir devant la flamme du pont de l'Alma. Nous sommes allés à leur rencontre ce matin.
On voulait juste voir la tour Eiffel et on est littéralement tombé dessus en traversant.
Nous ne savions pas que c'était quelque chose ici. Évidemment, nous nous souvenons de l'incident qui s'est produit, mais nous ne savions pas que ça se trouvait ici. C'est beau.
Je m'en souviens très bien. Cela a laissé une telle marque, même sur moi qui avais 7 ou 8 ans à l'époque, à cause de la personnalité et de la figure de Lady Di.
On se souvient encore exactement où l'on était avec ma femme lorsqu'on a appris sa mort. C'était si triste. Et donc, lorsque nous avons planifié nos vacances à Paris, c'était un arrêt que nous devions absolument faire.
Voilà pour l'essentiel. Retour au débat, toujours en compagnie de nos invités. On va parler du Conseil d'État qui a donc donné son feu vert, vous le savez, hier à l'expulsion de l'imam marocain Hassan Iki Houssen, dont Gérald Darmanin avait fait ces dernières semaines un symbole hein, de la lutte du gouvernement contre les discours séparatistes. Le problème, c'est que lorsqu'on a voulu l'interpeller, hier il n'était pas chez lui et il serait peut-être en Belgique depuis en fuite. Donc on attend d'ailleurs une communication du préfet du Nord à ce sujet d'ici quelques instants. Alors comment fait-on à partir de maintenant? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des procédures d'extradition qui sont prévues dans ce cas de figure avec la Belgique? Est-ce possible? On ne sait pas trop, à vrai dire. Sandra Buisson, du service police-justice, vous allez peut-être éclairer notre lanterne avant qu'on entende le préfet du Nord.
Oui, alors effectivement, plusieurs sources nous disent qu'il est probable qu'il soit parti se réfugier en Belgique. Il est considéré, vous l'avez dit, comme en fuite, inscrit au fichier des personnes recherchées. Ça veut dire que s'il est contrôlé quelque part en France, donc il sera arrêté immédiatement. S'il est en Belgique et qu'il est arrêté, il faut savoir qu'il est aussi en situation irrégulière sur le territoire belge, puisque son titre de séjour en France n'est plus valide et donc il ne peut pas circuler comme il le veut sur le territoire européen. Si les Belges l'arrêtent, puisque vous savez qu'il y a une procédure judiciaire en cours en France lancée contre lui, puisqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'expulsion, et dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen qui a été lancé, eh bien, la Belgique pourrait le renvoyer en France. Une fois en France, soit la procédure judiciaire poursuit son cours puisqu'il risque pour soustraction à une décision d'expulsion, il risque jusqu'à 3 ans de prison, soit on le place en CRA, en centre de rétention administrative, le temps de se mettre d'accord avec le Maroc pour pouvoir le renvoyer dans ce pays dont il a la nationalité.
Merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments de réponse et je vous dis, hein, on peut être interrompu à tout moment par cette communication du préfet du Nord qui nous en dira sans doute plus concernant ce qui va se passer maintenant, voire peut-être ce qui s'est passé ces dernières heures. Bonjour Mathieu Vallée.
Bonjour.
Vous accueillez sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Depuis hier, dans les conversations qu'on a les uns avec les autres, on se dit tous, mais comment est-ce possible? Bon, déjà, on parlera de l'aspect politique. C'est quand même un peu désastreux sur le plan politique par rapport au volontarisme affiché. Est-ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une surveillance, même discrète? Est-ce que ça s'applique dans ce cas de figure, avant même le rendu de la décision du Conseil d'État?
D'abord, vous savez que la police nationale, par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui gère le haut du spectre du terrorisme et des affaires graves en France en matière de terrorisme, surveille beaucoup d'individus. Toutes les personnes qui ont été condamnées pour terrorisme et qui sont remises en liberté après l'exécution de leur peine, parce que je rappelle que aucun terroriste, à part Salah Abdeslam et ceux qui ont fait couler du sang le 13 novembre 2015, qui ont été condamnés à perpétuité réelle, là on voit bien que beaucoup de personnes sortent et qu'il faut assurer le suivi, parce qu'on n'est pas certain qu'ils soient déradicalisés. Je voudrais même qu'à titre personnel, je sais qu'ils ne le sont pas, parce que on n'a jamais de certitude qu'ils ne soient plus imbibés de cette haine de la France et de nos valeurs. Bon, d'abord, je me permets quand même de dire que les prédicateurs qui prêchent la haine, l'antisémitisme, l'homophobie, toutes ces valeurs contraires à la République, c'est bien qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire français. J'ai pas compris qu'on a tergiversé pour avoir ce résultat-là. Ensuite,
voilà, on connaissait la date hein, de la décision.
Aujourd'hui,
on savait que c'était hier.
Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que M. Iki Houssen est un fugitif recherché par les services de police et de gendarmerie de France. C'est ça la réalité. Moi, je veux bien comprendre qu'il fasse prévaloir ses recours en termes de voie de droit, comme il l'a fait après le tribunal administratif de Paris, devant le Conseil d'État, en tout cas par le ministère de l'Intérieur. l'intérieur. Après, la justice a été rendue. Il doit se rendre le plus rapidement possible dans les services de police et de gendarmerie. Quand on est honnête, de bonne foi, et qu'on respecte le pays dans lequel on a grandi, puisque c'est ce que son avocate a mis en avant, eh bien, il doit se rendre. En tout état de cause, Sandra Buisson l'a bien précisé, on a des accords avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec tous ces pays européens. Et là, on voit bien qu'il faut avoir des accords européens dont fait partie le mandat d'arrêt européen pour que si on est des policiers belges, des policiers d'Amsterdam, par exemple aussi s'il va aux Pays-Bas, puissent nous le remettre. Maintenant, on peut toujours faire plus. Maintenant, le surveiller, il faut quand même un cadre. On ne surveille pas n'importe qui, n'importe comment en France. Je pense qu'on n'y aurait pas assez qu'il y ait un état de droit. Donc jusqu'à présent, c'était une voie de recours administrative et pas pénale. Donc on voit bien que cette décision qui a été rendue hier après-midi par le Conseil d'État avait été tout de suite suivi des faits, puisque les policiers sont rapidement intervenus à son domicile pour procéder à l'exécution de ce que les juges ont rendu comme décision. D'accord. Et il n'y était plus. Voilà. Oui. Non, mais c'est important de le dire parce que on est mobilisé pour faire respecter des lois de la République. Sauf que moi, j'ai entendu depuis le début de cette affaire que c'était le droit qui devait primer, le droit à dire qu'il devait partir de notre territoire. Et puis finalement, comme le droit ne lui convient pas, il veut pas partir et il s'enfuit. Curieuse conception du respect des lois de la République, même si on avait déjà vu dans le dossier qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur et le ministère que finalement les propos tenus, les prêches faits durant ses offices religieux, malheureusement, n'étaient pas suffisants pour caractériser dans un premier temps.
Sandra Buisson, vous avez quelques précisions à nous apporter. Vous êtes rester en notre compagnie.
Juste pour préciser ce qui s'est passé, effectivement, la surveillance, quand elle est encadrée légalement, peut toujours être décidée, mais il faut effectivement que ce soit encadré. Mais quand bien même il y aurait eu cette surveillance, d'ailleurs ça a peut-être été le cas, il était impossible pour les forces de l'ordre d'empêcher l'imam de s'en aller, puisque à ce moment-là, l'arrêté d'expulsion n'était plus valable. Donc de toute façon, il n'aurait pas pu l'entraver.
D'accord, merci pour cette précision. Louis-Marguerite, réaction quand même.
Réaction, d'abord, le Conseil.
Ça donne quand même l'impression qu'il a filé entre les doigts de tout le monde, quoi. Non, mais enfin, c'est quand même assez désagréable aussi.
Les analyses sont bien dites. Enfin, je veux dire, les éléments ont été rappelés du dossier. Vous l'avez dit, effectivement, les forces de police, d'abord, font un travail remarquable sur ce dossier, comme sur tous les autres. Et c'est toujours des questions de moyens de présence sur le terrain. J'imagine qu'on va y revenir. Le sujet, effectivement, le seul point qui n'a pas été évoqué, c'est que le tribunal administratif n'a pas autorisé de placer cet imam, cet individu, sous rétention. Et ça, ce que vous dites, est-ce qu'on est sur un état de droit ou un état de principe ? La réalité, c'est les deux. Moi, par principe, d'ailleurs, comme beaucoup de mes collègues, et même au-delà de la majorité sans doute, j'ai appelé à l'expulsion de cet imam. Après, il y a des voies de droit, effectivement, qui s'exercent. Et donc, il y a eu un jugement de première instance et un jugement d'instance suprême, enfin, en tout cas, d'instance supérieure qui s'est exercé hier. Et le tribunal administratif, alors que le ministère l'avait demandé, n'a pas autorisé la placement sous rétention, ce qu'on aurait pu faire dans d'autres cas ou d'autres dossiers. Voilà. Après, on peut s'interroger, ouais. On pourra regarder dans le détail du dossier, mais c'est le point qui fait qu'il n'est plus sur le territoire. Sans doute qui a empêché le fait qu'on les surveille de façon très précise. En revanche, ce qui est certain, c'est que s'il remet un pied sur le territoire français, il n'y a pas de doute qu'il n'a pas vocation à rester et à être expulsé.
Judith Ventrob, le problème, et c'est ça qui est un petit peu désagréable, c'est que ça crée un précédent. Et que d'autres vont pouvoir se dire, bon, moi aussi je vais faire la même chose après tout, s'il m'arrive la même chose.
Oui, mais le gros problème, surtout avant de parler de cette fuite, c'est que l'imam Iqiyoussen s'était vu refuser une demande de naturalisation en 1999. C'est-à-dire il y a 24 ans, il y a une zone grise, c'est-à-dire qu'on lui dit non, vous ne serez pas français, vous ne remplissez pas les critères. Et déjà, c'était pour suspicion de radicalisation, provocation à la haine et discrimination. Donc on était dans le même dossier. Et qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On lui dit non, vous ne pouvez pas devenir français, mais en revanche, votre visa est valable, donc vous restez. Ça, ce n'est pas possible. Il faut choisir. On remplit les critères pour vivre en France, ou on ne les remplit pas. Et si on ne les remplit pas, c'est dehors tout de suite.
On a failli par laxisme ou par en se disant, bon, bah, après tout. Ou alors la loi est vraiment mal faite en la matière.
Je ne suis pas juriste et il faut reconnaître que la décision du Conseil d'État a finalement été plutôt rapide. Et le fait que cet imam soit expulsé nous rassure quand même, nous Français et citoyens, en se disant mais quand même l'état de droit finalement sert à quelque chose et en laissant travailler la justice, les autorités administratives, preuve en est que quelqu'un qui prêche la haine et qui est homophobe, on va pas refaire la litanie de toutes ses caractéristiques, peut quand même être expulsé, là on peut s'en satisfaire. En revanche, on arrive encore à cette histoire de QTF, finalement. Ce monsieur va devoir être expulsé et il part. La question du contrôle des frontières revient systématiquement à chaque fois qu'il y a des problèmes de crise, des problèmes migratoires, des problèmes de terrorisme. quand la justice, enfin pardon, quand le gouvernement prendra aussi des décisions pour mieux contrôler ces frontières, puisque la preuve de cet exemple montre que des prêcheurs de haine peuvent aller et venir. On prend l'exemple aussi de celui dont vous parliez dans les informations, ce prêcheur de haine, cet imam de la grande mosquée d'Ampalo à Toulouse, qui ressort avec un bracelet électronique. 4 mois avec sursis, c'est un bracelet électronique.
Oui. Bon. Et des dommages et intérêts.
Je pense qu'on peut faire une vidéo YouTube. Je pense qu'on peut faire une vidéo YouTube avec un bracelet électronique. Je pense qu'on peut traverser la frontière et aller en vacances en Espagne avec un bracelet électronique. J'arrive de Toulouse hier. Je peux vous dire que c'est monnaie courante au Mirail. Donc tout ça pour vous dire que c'est bien que, en tout cas, l'état de droit ait fait, comment dirais-je, son effet et prouve que nous y sommes. En revanche, sur le laxisme de, comment dirais-je, d'une part de la démographie qui arrive dans notre pays. Rien n'est maîtrisé, et que ce soit à l'aller et en ressortie.
Sandra Buisson, on voudrait préciser quelque chose que vous avez dit. Apparemment, ce ne serait pas le cas, le bracelet électronique.
Oui, pour l'imam de la mosquée d'Ampalo, donc contrairement au jugement en première instance dans lequel il avait été relaxé, cette fois il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et une amende. Il n'a pas été du tout question de bracelet électronique. En attendant, il a fait valoir son intention de se pourvoir en cassation, donc cette décision en appel n'est pas définitive. Donc pour l'instant, il n'est pas question de demander son expulsion, de prendre un arrêté d'expulsion le concernant.
Merci beaucoup Sandra. Louis-Marguerite, quand même, sur les OQTF, c'est vrai qu'on a tendance à dire le bilan du gouvernement en la matière, il n'y a que 12% je crois des OQTF qui sont réellement menés à leur terme, autour de 10%. Là, il y a quand même un gros travail à faire. On nous dit qu'il va y avoir une nouvelle loi, on travaille sur de nouveaux textes. Mais pour l'instant, force est de constater qu'on... Même en améliorant les choses, on ne va pas arriver à 70-80% du jour au lendemain.
Non, ça se saurait sinon. Mais la moyenne que vous exhibez là, autour de 10-12%, en réalité, elle est aussi un peu liée au fait que comme il y avait le Covid, ça n'excuse pas tout. Hein, et je ne prétends pas que tout est parfait.
Juste en 2019, ce n'était pas le cas déjà.
Non, mais c'est en train un peu de remonter. Je ne dis pas qu'on est à 80%, ce n'est pas le cas. On est en train de remonter autour de 20-30, c'est les derniers chiffres.
Mais ça devait même mettre du 100% en fait. Hein.
En tout cas, le chiffre très bas que vous indiquez semble être en train de remonter par l'effet du fait que maintenant, on a une vie normale depuis plusieurs mois. Voilà, ça c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, la question, c'est que beaucoup de pays ne reprennent pas les ressortissants des pays tiers. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, en réalité, et c'est difficile, le président a commencé à essayer un petit peu de le faire en Algérie, et c'était un des sujets, et c'est compliqué, évidemment, ça va prendre plusieurs mois. Mais la réalité, c'est que d'un coup de baguette magique, on peut pas...
Mais on les a les leviers. Est-ce qu'on les a les leviers?
En tout cas, des leviers diplomatiques, des leviers de discussion, ça a été un des sujets parmi beaucoup d'autres.
On suspend les visas.
Pour l'instant, ça a été fait, mais à moitié.
A commencé à le faire avec les autorités algériennes l'année dernière, on s'en souvient. Ça avait d'ailleurs donné lieu à un certain nombre de manifestations à l'ambassade d'Algérie en France à Paris. Et voilà, donc je pense que ça a été un des sujets.
Et là, il vient d'accorder 8000 visas étudiants aux Algériens.
Voilà. Peut-être, mais c'est peut-être dans un.
Comment
dans
ça peut-être si, je vous assure.
C'est un des résultats de la visite.
C'est un paquet global.
Il y a des pays pour le Maroc également.
Il y a des pays qui ne connaissent que le rapport de force.
Mathieu Vallée, réaction peut-être sur ce manque de volontarisme.
Si j'ai 2 minutes, la première...
Et diplomatique, pour le coup.
Je vais revenir sur... En plus, je donnerai des chiffres précis, mais sur M. Iquissen, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 2012, quand on a un terroriste comme Mohamed Merah qui a tué des enfants parce qu'ils étaient juifs à l'école aux Aratora, un lundi matin, personne n'a oublié. Mmh. Quand vous avez Franck Brinsolaro, Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Xavier Jugelet, Jean-Baptiste Savat, Jessica Schneider, Stéphanie de Montferme et tous ces policiers morts pour la République... Mais avant qu'on ait du sang qui coule dans nos rues, dans nos établissements scolaires, on a des prédicateurs de la haine qui, eux, ne font pas le luxe, en fait, d'aller faire leur exaction, mais qui ont, par contre, une incidence et une responsabilité totale dans l'endoctrinement et l'embrigadement de ces personnes, de ces terroristes qui ont tué des Français et des Françaises pour leur conviction, leur origine, et même aveuglément sur les terrasses et le Stade de France. Donc moi, je pense à tous ces policiers qui sont tombés pour la République et cette décision à l'honneur de la France parce qu'on pense à tous ceux et toutes celles qui sont tombés pour le terrorisme à cause du terrorisme et qui doit être une lutte sans merci. Okay. La deuxième chose, vous avez actuellement 21 centres de rétention administrative en France qui correspond à peu près moins de 1800 places. On n'a que 21 centres de rétention administrative. Je ne compte pas les 4 centres de rétention administrative dans les départements et les territoires d'outre-mer. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment assez de place dans les centres de rétention administratifs pour expulser toutes les personnes en situation régulière et qui plus est surtout les voyous étrangers.
C'est d'ailleurs la raison pour le maintien en liberté d'aller et venir pour toutes ces personnes.
Et c'est d'ailleurs alors deux choses à savoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet et à la direction centrale de la police aux frontières qui en France gère la lutte contre l'immigration clandestine et ses flux, si j'ose dire, de personnes étrangères en situation régulière pour les expulser dans leur pays d'origine. En fait, si vous voulez, on a 90 jours, avant c'était 45 jours, on a 90 jours pour quasiment négocier avec les pays d'origine qui récupèrent leurs propres ressortissants, mais on marche sur la tête. Le principe, il est là. Alors effectivement, dans l'effectivité de ces expulsions, il faut qu'on ait des accords avec, principalement, on va pas se mentir, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Enfin, moi j'ai toujours du mal avec des pays qui veulent pas récupérer des gens dont on a prouvé, parce qu'on prouve que c'est la nationalité des pays dont on veut les ramener chez eux.
Quand on arrive à la prouver.
On arrive souvent à la prouver.
Avec eux, oui.
Et en plus, comme on est généreux, comme la France est généreuse, y compris avec ceux qui souillent le territoire français, vous avez tous les voies de recours. Le juge des libertés de la détention contre la rétention administrative, le juge administratif contre l'obligation de quitter le territoire français. Non, mais est-ce que vous comprenez que l'usine à gaz, que c'est pour mettre dans un centre de rétention administrative un étranger en situation régulière ou un étranger, bien, ouais. Que pour l'expulser, non, mais c'est le parcours. Non,
mais c'est surtout le dialogue de sourds avec les pays concernés. C'est ça qui
Ah, mais écoutez, là, je vais être très clair, Nelly Delac. Il faut de la volonté politique. Là, le policier que je suis ne peut s'en remettre qu'aux politiques. Et d'une certaine manière, moi, si je fais une analyse personnelle de la situation, quand on voit que l'abstention gangrène nos élections depuis 2020 avec les élections régionales, départementales et municipales, vous voyez bien qu'un Français sur deux ne va pas voter. C'est que le politique doit démontrer toute sa noblesse en montrant qu'il peut changer le quotidien des gens. Quand on voit qu'à Marseille, à Montpellier, à Lyon, plus d'un voyou sur deux est étranger, on ne peut plus se faire l'économie de faire respecter non seulement la loi de la République, mais en même temps d'expulser ceux qui viennent faire des infractions et des victimes et n'ont pas s'intégrer.
Judith Weintraub, on a les leviers adéquats, on a les moyens de faire plier, de faire se conformer ces pays aux demandes qu'on émet, en matière d'aide au développement, par exemple. C'est des choses que certains ont évoquées, certains ont dit aussi sur les flux.
La première arme, ce sont les visas. La première arme, c'est
visas,
les visas.
On a essayé, ça n'a pas trop marché. Hein.
Ça n'a pas marché du tout, mais parce qu'on a essayé mollement. Les protestations nous ont
fait... Donc comment aller plus loin ?
Nous ont fait renoncer assez vite. Bah, il faudrait tenir, hein. Il faudrait avoir une politique de fermeté. Quand on profère des menaces et qu'elles ne sont pas suivies des faits, on perd toute crédibilité. C'est ce qui se passe quand on menace de couper les visas, parce que ça, on l'entend... C'est pas depuis l'an dernier. Hein. On entend ça depuis au moins deux quinquennats, voire trois. Ouais. Donc ça ne fonctionne pas parce que ce sont des menaces non suivies d'effets.
Vous iriez jusqu'où ? Vous couperiez ou vous réduiriez l'aide au développement ? Non, mais je veux dire, à un moment, c'est une sorte de bras de fer qui s'engage.
Je crois qu'il faut qu'on arrête l'ethnocentrisme.
Économique aussi.
Il faut qu'on arrête l'ethnocentrisme français et comprendre que tous les pays ne fonctionnent pas psychologiquement, diplomatiquement, comme nous, on fonctionne en France ou parmi nos voisins européens. Je vous défie de passer un deal commercial avec un Chinois, un Français... et une personne d'origine africaine, les démarches et l'approche relationnelle est complètement différente. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on estime que seul l'état de droit, la relation diplomatique bien léchée avec les tapis et les dorures, ça fonctionne, non, ça fonctionne pas. Et clairement, nous sommes, comment dirais-je, des idiots dans cette histoire. Le rapport de force n'existe pas. Ils s'en amusent. Preuve en est avec le gaz algérien. Ils s'en amusent avec grand sourire. Quand vous regardez le traitement journalistique de la chaîne du service public algérienne sur la venue du président de la République en Algérie, je vous invite à faire un copier-coller avec ce qui a été diffusé sur France Télévisions. C'est exactement l'inverse, où ils piétinent et salissent la pertinence économique et la relation diplomatique qu'il y a entre la France et l'Algérie. Je vous raconte pas une fake news. C'est la télévision du service public algérien qui a diffusé cela. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que du coup, le rapport de force doit être beaucoup plus ferme. Voilà.
Louis-Marguerite, est-ce qu'il y a une forme de naïveté de la part de nos gouvernants vis-à-vis effectivement de ces pays qui se rient un peu de nos méthodes ou de nos injonctions ?
Non, mais personne ne prétend que le sujet est simple et personne ne prétend
absolument.
Que, vraiment, ni au gouvernement, ni ailleurs d'ailleurs, et ni dans la majorité. Effectivement, il faut distinguer l'immigration irrégulière de l'immigration régulière, déjà. Donc ça, c'est un point, et c'est extrêmement important. L'immigration irrégulière, elle doit être effectivement beaucoup plus suivie des faits. C'est vrai, on n'est pas encore à l'optimum, mais je le reconnais bien volontiers.
C'est bon
mais
qu'on
faut,
puisse dire.
Non, mais effectivement, il faut qu'on continue. Il y a un débat, effectivement, sur la longueur des procédures, ça c'est vrai, et donc, notamment les longueurs de droit de recours, aussi parce qu'il y a des questions d'effectifs à l'OFRA, puisque c'est eux qui traitent les dossiers. Il y a des officiers de protection qui regardent est-ce qu'on est menacé, est-ce que le droit d'asile s'applique ou pas, etc. Donc, je veux dire, sans forcément changer le fond, il y a une question d'exécution et de capacité à agir vite, à instruire des dossiers. Et aussi, une fois qu'ils sont instruits, on a considéré qu'ils étaient autorisés à entrer sur notre terrain, enfin, rester sur notre sol ou pas, d'effectivité de la mesure. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, effectivement, il y a notre capacité, moi je suis d'accord, à choisir ce qu'on veut accueillir sur notre territoire. Et là, en fait, il y a un peu trois types d'immigration. Il y a l'immigration dite familiale, l'immigration économique et l'immigration étudiante. D'ailleurs, en 2010, on avait voulu dire, l'immigration à l'époque, c'était à peu près 200 000, je crois, on accordait de 200 000 visas, un peu plus, peut-être 250 000. Et en fait, pour atteindre les objectifs qui étaient à l'époque considérés comme ambitieux par certains de réduction de l'immigration, on avait dû réduire tous les visas étudiants, notamment de pays asiatiques qu'on souhaitait accueillir sur notre sol pour plein de raisons, parce que ça fait des francophones, des francophiles, etc. Donc je pense que là, il faut qu'on ait aussi une approche équilibrée sur ceux qu'on veut accueillir sur notre territoire. Moi, je suis pas choqué qu'on accueille des étudiants étrangers qui viennent consolider notre langue, qui peuvent devenir des amis de la France.
Mais c'est pas ça qu'ils vous disaient, vous savez très bien. Ils vous disaient autre chose.
Non, mais ce que je dis, c'est après la question de est-ce que les pays.
Sur l'immigration légale, c'est une chose, mais sur l'immigration illégale, pardonnez-moi, mais sur l'immigration illégale, contrôler les frontières, on n'a pas besoin de demander l'autorisation au Maroc pour contrôler les frontières entre les. On n'est pas obligé de financer SOS Méditerranée, on n'est pas obligé de financer la CIMAD et compagnie qui aident les étrangers, y compris délinquants, à rester sur notre territoire.
Les pays qui y arrivent un peu mieux que nous sont ceux qui ont externalisé
les demandes de visa, bien sûr.
Parce que sinon, aucun pays n'a les moyens financiers.
Après, il y a un autre sujet rapide, c'est qu'on fait partie de l'espace Schengen. Et qu'à partir du moment que les 26 pays qui composent l'espace Schengen accordent un visa européen, la personne qui a ce visa européen, que ce soit en Espagne, que ça soit en Italie, que ça soit en Allemagne, que ça soit dans les pays signataires de l'espace Schengen qui ne font pas forcément partie de l'Europe, hein, vous le savez, et bien derrière, ça engage tous les autres pays. Et sur la lutte contre l'immigration clandestine, on voit bien que chaque pays est bien seul. Quand Lampedusa en Italie, quand en Espagne, quand en Grèce, quand en Grande-Bretagne, on dit aux pays de se débrouiller tout seul, même s'il y a l'agence Frontex qui gère les frontières extérieures avec des effectifs qui sont pris dans chaque pays, on voit bien qu'on manque pas d'une armée, mais en tout cas d'une police européenne des frontières qui permette de lutter réellement contre cette immigration clandestine, parce que là, chacun fait un peu comme il peut, chacun se débrouille comme il veut, et que malheureusement, Frontex, à part relever les empreintes et faire une traçabilité de ceux qui rentrent sur le territoire, on l'a vu par exemple sur des terroristes du 13 novembre qui ont profité des filières migratoires pour pénétrer dans l'espace européen, on voit bien aussi qu'il y a une question européenne qu'on ne peut pas sous-évaluer, comme de la même manière qu'on voit que M. Ekuysen part en Belgique, dont je peux vous dire aussi qu'en Belgique, ils sont déjà suffisamment malheureusement armés avec toutes les personnes radicalisées, et je rappelle aussi qu'une partie des terroristes du 13 novembre étaient issus du quartier de Molenbeek, donc à Bruxelles, en Belgique.
Il met l'accent sur un point important. Il était interdit en France.
Contrairement, enfin, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a les visas Schengen qui sont délivrés, et là, la France, en l'espèce, ne peut pas faire grand-chose.
Non, la France ne peut pas faire grand-chose. Pourtant, la France le sait particulièrement bien. Et Emmanuel Macron a été le président de l'Union européenne sur les six premiers mois de l'année. Donc, pourquoi ne pas poser ces sujets qui transcendent largement notre problème de petit coq français? C'est, encore une fois, une question de volonté politique. Le fait, par exemple, qu'un pays membre de l'Union européenne souhaite renforcer le contrôle à ses propres frontières indépendamment des dispositions de circulation qui peuvent être prises, je pense pas ça déconnant. Enfin, je pense que chez vous, lorsque vous partez de chez vous, vous fermez votre porte à clé. Quand quelqu'un rentre chez vous, il toque ou il sonne à la porte.
Bon, là, ça veut dire revenir sur les traités. Bon. Alors, c'est encore un autre débat.
Mais ce que je veux dire, c'est que le bon sens appliqué par chaque Français qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas travaillé dans un cabinet ministériel comme vous, qui n'est pas à l'Assemblée nationale, ne comprend pas qu'on ne puisse pas protéger.
Là, vous l'attaquez un peu.
Je pense qu'il y a à peu près aucun rapport avec.
Rapide.
Moi, je partage totalement l'idée qu'il faut renforcer les moyens de Frontex. En effet, ça c'est vrai, parce que vous avez raison, une fois qu'on a posé Schengen, c'est la libre circulation des capitaux, des moyens, enfin vous savez comment ça marche. Donc ça c'est effectivement, et peut-être qu'il faut plus d'harmonisation sur le droit, il y a peut-être des pays qui délivrent peut-être plus facilement de laissez-passer, ça j'entends bien, ils ont commencé un peu à le faire, et on peut pas nier que le président n'ait pas commencé un peu à regarder le sujet.
Une petite pause et on revient peut-être donc avec une communication du préfet du Nord, on en saura plus sur le parcours d'Hassan Ekuysen depuis qu'il a été expulsé du territoire français. De retour avec vous pour la dernière partie du débat 90 minutes info. On se retrouve juste après le flash d'Arthur Morio. Rebonjour Arthur.
Marine Le Pen a adressé une lettre à Elisabeth Borne. La chef des députés RN à l'Assemblée nationale demande une session extraordinaire du Parlement concernant les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique. Elle dénonce le Conseil de défense consacré à cette problématique qu'Emmanuel Macron réunira vendredi. Il méprise, selon elle, les représentants du peuple. L'obtention de visas sera plus compliquée pour les citoyens russes voulant se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont décidé de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Réunis à Prague, ils ont convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées. Le 31 août 1997, il y a donc 25 ans jour pour jour, la princesse Diana mourait dans un accident de voiture dans le tunnel sous le pont de l'Alma à Paris. La princesse de Galles avait 36 ans. Plus de deux décennies plus tard, son image reste intacte. Aucune commémoration n'est prévue aujourd'hui à Londres, même si la princesse Diana reste dans le cœur des Britanniques.
Merci Arthur. On reprend le débat toujours avec nos invités Judith Ventrop, Benjamin Cauchy, Mathieu Vallée et Louis Marguerite autour de cette table. On va parler d'un professeur de lettres. Un professeur passé par plusieurs établissements dans ce qu'on appelle les zones sensibles franciliennes et qui a décidé d'en tirer un ouvrage, mais un ouvrage qui se lit comme un signal d'alarme en réalité dans ce qui se passe dans l'école de la République. Il est baptisé « Ces petits renoncements qui tuent ». C'est un livre qui relate, vous l'aurez compris, la progression de l'islamisme dans les établissements scolaires français aujourd'hui. Il a tenu évidemment à garder l'anonymat, ce professeur. Et nous avons rencontré la journaliste qui a coécrit cet ouvrage basé sur ses témoignages, sur ses expériences personnelles. Augustin Donadieu et Thibaut Marcheteau pour le résumé.
C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
Il y a un certain mouvement salafiste, frériste, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
Sous couvert d'anonymat, il raconte ses petits renoncements qui tuent.
Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait évidemment préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde, et il a un élève qui s'est levé en hurlant « Ça, monsieur, c'est pas légal !» C'est un élève qui ne pose jamais de problème, et il m'a dit « J'étais décontenancé. »
Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
Ce sont des petits renoncements qui peuvent tuer, oui, puisqu'ils ont mené à la décapitation de Samuel Paty.
À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu.
Benjamin Cauchy, j'imagine que ça ne vous surprend pas tellement. On avait déjà eu, évidemment, d'autres témoignages. On se souvient de ce professeur de Trappe, notamment. Oui. Hein. On sait aussi, puisqu'on a beaucoup de sondages réguliers, que beaucoup de profs s'auto-censurent lorsqu'il s'agit d'aborder certains sujets. Un commentaire sur cet ouvrage.
Ce n'est finalement qu'une partie émergée de l'iceberg. Il est dactylographié, il est imprimé, il sera dans toutes les librairies, mais c'est vrai que la recrudescence de ces témoignages de parents, de professeurs, d'étudiants sur les réseaux sociaux ne nous surprend pas finalement lorsqu'un livre tel que celui-ci sort. Il n'est qu'une formalisation de ce séparatisme qui est en train de se distiller partout dans notre société, y compris au sein de l'éducation nationale. On voit bien, et des chiffres l'ont montré il y a quelques années, je crois que 27% de la jeunesse d'origine musulmane souhaitait préférer et privilégier la charia plutôt que les lois de la République française. Donc c'est assez symptomatique d'une perte de lien entre la France et une partie de son peuple. On attend de M. Papendaye qui effectivement puisse permettre à tous les professeurs de France de pouvoir exprimer sur l'ensemble des sujets, peut-être éviter de parler de wokisme, de cancel culture tous les matins, de progressisme, de LGBT, de transphobie, mais plutôt parler de l'essentiel et ce qui fait les fondements de notre République.
Si on les trouve déjà, ces professeurs, parce que ça, il en manquait 4000 à l'appel, bon, on va tenter de...
Pardonnez-moi, mais s'il manque des professeurs, c'est d'une part la rémunération, et ça, vous y travaillez, mais aussi sur la reconnaissance et la sécurité du métier de professeur.
Oui.
Vous soulignez à juste titre, c'est loin d'être le premier témoignage qu'on a, 2002, Territoire perdu de la République, pareil, des témoignages de profs anonymes qui racontent exactement la même chose, 2004, rapport du préfet Aubin. Même chose, 2017, le livre de ce proviseur de, de Marseille, Bernard Ravet, vous savez, principal de collège, imam de la République.
Ensuite Didier Le Maire, je crois.
C'est Didier Le Maire, ses trappes, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Donc, question témoignage, ça va, on a ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est de l'action. Et de l'action au cœur du problème, qui est de quoi se nourrit cet islamisme galopant dans notre pays depuis plusieurs années. Alors on a quand même, grâce aux enquêtes et au travail des experts, quelques idées, et on sait notamment que la nébuleuse des frères musulmans forme une grande partie des imams radicalisés, distille cette idée que la meilleure façon pour instaurer le califat partout dans le monde, puisque c'est son objectif, officiel et affiché, c'est s'adapter aux mœurs du pays accueillant pour faire ce qu'on appelle la charia minoritaire. C'est l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui l'avait théorisé du temps où il se disait encore appartenant ou proche des frères musulmans. Maintenant, il dit qu'il a rompu avec eux, mais c'est pas bien clair selon les vidéos. Donc ça, on le sait. Le débat a déjà été évoqué plusieurs fois. Nathalie Kosciusko-Morizet avait essayé d'ailleurs de criminaliser les frères musulmans et le salafisme. Et en fait, il y a un pays en Europe, parce que c'est interdit, les frères musulmans sont interdits en Égypte, en Arabie Saoudite, aux Émirats. Et en Europe, il y a un pays qui interdit les symboles des frères musulmans et les discours des frères musulmans, leur pensée en fait, c'est l'Autriche. L'Autriche qui a été frappée par un attentat à Vienne en 2020, où il y a eu de mémoire 4 morts et d'innombrables blessés, a décidé de s'en prendre au symbole parce que vous n'avez pas la carte des frères musulmans. C'est pour ça que dans la presse, vous lisez réputés proches d'eux ou qu'on dit proches ou qui sont partagés. Vous n'avez pas cette arme légale. Mais en revanche, quand vous vous attaquez comme l'Autriche, seul pays européen à l'avoir fait, au symbole, au texte et aux idées, en fait, que vous décrétez non compatibles avec votre démocratie, avec notre République, eh bien, vous permettez aux juges d'agir. Il y a eu presque 30 000 infractions constatées depuis l'an dernier, constatées et sanctionnées en Autriche.
Mathieu Vallée, cet islamisme qui progresse rapidement, d'ailleurs, on le voit année après année à l'école, les enquêtes le démontrent, et maintenant, on a des témoignages à l'appui qui fleurissent pratiquement tous les mois, quoi.
Moi, j'ai fait un bac littéraire et j'avais un excellent professeur de philosophie qui, lorsqu'il a entamé la question des religions en France, avait dit une citation très simple d'Aristide Briand : la loi doit protéger la foi autant que la foi ne prétendra pas dire la loi. Vous voyez ? Donc la foi est protégée par la loi tant que ce n'est pas la foi qui va dicter les lois de la République. Donc il faut en fait que dans nos principes républicains, l'école, qui est le sanctuaire du berceau de l'émancipation de la nation, puisse grandir en apprenant et en étant imbibé de ces lois-là. Si l'école n'arrive pas à assurer cette mission, le combat est perdu d'avance. Les règles en société, les règles de vivre ensemble, les règles de la République, tout s'apprend à l'école. Alors effectivement, moi, je suis partant du principe de dire qu'il faut savoir lire, écrire et compter, parce que si on a passé termes fondamentaux à l'issue même du collège, parce qu'on voit souvent, par exemple, l'école, quand on rentre au collège en sixième, on voit bien qu'après, on a des décrocheurs scolaires, et il n'y a pas de secret, ceux qui ne vont plus à l'école, c'est ceux qu'on retrouve dans la rue et qui deviennent des voyous. Sans compter quand les parents démissionnent, alors je comprends bien qu'il y a des parents qui n'y arrivent pas, mais aussi on dit des parents qui démissionnent, quand on voit que dans l'Oise, on a des parents qui apprennent à leurs gamins à faire du rodéo, ou en tout cas à fuir les gendarmes et les policiers lorsqu'ils sont sur des engins sans casque, on comprend que le combat va être très compliqué. Donc on a besoin de tout le monde et l'école en premier lieu. Et c'est vrai, moi dans des fonctions passées, j'ai eu la chance de travailler sur le sujet de l'école républicaine, notamment en 2004 lorsqu'il y avait un rapport de la commission Tello qui avait été fait. Et déjà à l'époque, on parlait de ces fondamentaux qui n'étaient pas maîtrisés. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais en établissement scolaire, on n'avait pas autant de difficultés à enseigner certaines matières, notamment la Shoah, notamment certaines périodes de notre histoire coloniale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, être professeur, c'est aussi un sacerdoce, au même titre qu'être un policier. Puis vous savez, l'État fait jamais les choses à moitié, puisque les policiers les plus jeunes, on les met dans les quartiers les plus difficiles. Les professeurs les plus jeunes, on les met aussi dans les quartiers difficiles. Donc finalement, ces hussards noirs de la République se retrouvent souvent bien seuls face à des publics parfois compliqués, sur des matières difficiles. Et on a souvent le renseignement qui suit avec les établissements scolaires, notamment notamment leur chef d'établissement, tous les signalements qui nous sont montés, c'est important.
Sans compter les agressions aussi qui sortent même du
spectre. Bien sûr, voilà, on parlait
les agressions du quotidien, les menaces, les professeurs.
On parlait de, vous me parliez de...
Oui, de coups, non, non, bien sûr, mais en plus, s'ajoute à cela, et ce qui explique aussi peut-être la désaffection pour le métier. On a l'impression quand même, le Marguerite, que c'est un combat sans fin et que ça ne va pas s'arranger demain. Alors, à quel moment on prend le taureau par les cornes et on crée une forme de sursaut, y compris, non pas seulement du corps enseignant, parce qu'eux, ils sont là, ils exercent leur métier tant bien que mal, mais il faut que l'impulsion vienne du corps académique lui-même.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin de la fin du combat, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Je pense que peut-être deux observations complémentaires. La première, c'est qu'il y a l'image du professeur qui doit être réhabilité. Et c'est vrai qu'il a perdu de sa superbe, de sa grandeur. C'est pas l'instituteur. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. C'est une question de rémunération d'une part, mais aussi une question d'image. Et je pense que les élus que nous sommes et d'autres, tous les responsables dans la société, à tous les niveaux que ce soit, on doit réhabiliter l'image de l'enseignant pour que sa parole compte vraiment. Au moins autant que le responsable religieux ou n'importe quel autre responsable d'ailleurs. Parce qu'en fait, en réalité, les jeunes, ils sont, comme beaucoup de jeunes, sous influence. Ils écoutent ce qu'on leur dit à l'école, ce qu'on leur dit en bas de chez eux, ce qu'on leur dit à la maison, ce qu'on leur dit dans leur journée quotidienne.
On doit pouvoir parler de tout à l'école sans que ça provoque un scandale.
Mais donc, ça veut dire que l'image de l'enseignant, et c'est vrai qu'on n'est pas, à l'endroit où on doit être, c'est-à-dire qu'elle doit être vraiment, elle doit faire figure d'autorité. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est une question évidemment de statut, mais c'est aussi une question de discours et d'image qu'on renvoie sur le métier d'enseignant. D'abord, c'est un métier extrêmement noble, mais surtout, il doit être habilité. C'est la première observation. Deuxième observation, et j'en termine par là, il y a une question aussi de fréquentation. Et donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des responsables associatifs qui font par ailleurs un travail formidable sur le terrain. Moi, j'en ai à Chalon-sur-Saône, j'en ai à Mont-Soleil-Mines, qui doivent effectivement aussi. Et je pense que quand les jeunes sont à l'écoute de ceux qu'ils rencontrent tous les jours en dehors de l'école, ça joue aussi et ça participe du combat, effectivement, qui est un vrai fléau sur l'islamisme politique.
Merci,
c'est un sacerdoce. C'est vrai que les mosquées où est professé l'islam radical, on voit bien que c'est très difficile. Soit de les fermer, quand elles sont fermées, de les laisser fermer et d'expulser, on l'a vu avec cet imam, ces personnes qui prêchent la haine, et ça passe aussi par là le combat, parce qu'on voit bien que on paye la perte des repères du communautarisme dans nos quartiers. Non, mais vous me demandez, l'école fait partie de quartier, d'accord, et si on lutte pas contre le communautarisme par ces mesures que je viens de dire,
je vais le ramener.
À mon humble sens.
Vous irez expliquer ça à Laurence Ferrari dans un quart d'heure, elle sera pas très contente pour le début de punchline si elle prend avec du retard. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, et je vous dis à demain pour ceux qui nous retrouvent à 15h30 chaque jour. Bonne soirée.